Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Havre de Culture. Je suis Guillaume, le jet de girafe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Jacques et Martine, un couple d'auteurs talentueux et créatifs. Jacques est connu pour ses séries de bandes dessinées comme Léo, Élu et La Bande à Aide. Martine, quant à elle, a exploré différents genres littéraires, du recueil de nouvelles aux chroniques du confinement. Bonjour Jacques et bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. C'est la première fois que vous accueillez une girafe chez vous ?
Ouais. Ouais.
Donc en fait, on est là pour parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle Tribulation ordinaire, qui est un livre original qui mêle des anecdotes drôles de votre quotidien familial et avec en plus des illustrations savoureuses que vous avez fait, Jacques, c'est ça ?
C'est ça.
Ma première question peut-être c'est avant de parler de Tribulation ordinaire, est-ce que vous pouvez peut-être parler de votre parcours respectif et ce qui vous a amené à être auteur de bande dessinée ou autrice, ou Martine ?
Vas-y Jacques.
C'est moi qui commence.
Oui. Allez-y.
Tout petit déjà, dans les marges de mes cahiers.
Il était une fois.
En gros, c'est ça. Hein. C'est tous les dessinateurs, ils racontent à peu près la même histoire.
Ouais.
C'est que quand ils étaient enfants, eh ben, ils dessinaient. Et puis, à l'école, ils dessinaient dans les marges des cahiers. Ça, c'est un peu une histoire qu'on raconte. Moi, je sais que ce qui a déterminé que je fasse de la bande dessinée, c'est une émission que je voyais à la télé. C'était L'ami public numéro 1. C'était une émission sur Walt Disney,
ouais,
présentée par Pierre Tchernia. Et on voyait des dessinateurs de Disney, donc on les voyait dessiner. Et moi, j'étais fasciné par ce que je voyais. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça, je sais, j'avais 10 ans à peu près, je sais ce que je veux faire, je veux être dessinateur de Walt Disney, quoi. Alors, c'était ça. Et puis après...
Il faut être ambitieux.
Bah, ça me semblait un minimum, quoi. Enfin,
ouais,
c'est ce que je voulais atteindre. Et puis après, vers 14 ans, j'ai découvert Gottlieb. Alors tout a changé.
Énorme référence.
Bah oui, là je me suis dit, bon, on peut tout faire avec le dessin, avec la BD finalement. Et voilà, je me suis dit, bah je veux être Gottlieb. Alors j'ai essayé d'être Gottlieb et puis finalement maintenant je suis Jacques, quoi.
Et bah, c'est parfait, c'est très bien. On reviendra peut-être un peu après ce que vous avez fait. Enfin, c'est ce que tu as fait, pardon. On a dit constituer. Et toi, Martine, tu as deux métiers en fait.
Oui, voilà, j'ai deux métiers, mais je crois que j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. J'avais écrit une petite histoire que je n'ai pas inventée. Hein. C'était dans ma famille, on racontait. Mon parrain avait raconté une histoire sur sa femme et son fils qui devaient venir en deux chevaux jaunes. Enfin voilà. Alors j'étais partie là-dedans, je l'ai écrite. Et puis après, il y avait eu une autre aventure justement dans la famille aussi. Et c'est pareil, j'avais écrit cette histoire. L'histoire, c'était la valise et elle avait été retenue à l'école. Enfin, elle avait été sélectionnée par les autres élèves de CE2.
Ouais.
Et voilà, moi j'adorais.
C'était une motivation pour continuer finalement.
Mais oui, et je crois que, alors bon, j'ai peut-être pas. Je crois qu'à 11 ans, je voulais écrire un roman.
Ouais.
Je l'ai abandonné en cours de route. J'ai écrit des poèmes. J'ai tenu un journal comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. Et puis il a fallu choisir un métier parce que je pensais pas que ça pouvait être un métier d'être écrivain. Mmh. Et j'ai choisi d'être orthophoniste, mais je trouve que les deux vont bien ensemble parce que c'est un travail autour des mots de toute façon.
Absolument, voilà. Oui.
C'est un travail sur la communication. Donc voilà, j'ai été orthophoniste, et je le suis encore un petit peu. Plus pour très longtemps, mais j'ai toujours écrit en fait. Depuis que je suis au Havre, parce que je suis pas originaire d'ici, depuis que je suis au Havre, depuis 86, je n'ai jamais arrêté d'écrire, je pense.
Vous avez des sources d'inspiration tous les deux, des thèmes récurrents qui vous nourrissent pour créer soit des BD, soit des œuvres, des ouvrages?
Non, on peut peut-être dire que, en fait, nous, on s'est rencontrés. Moi, ça me fait toujours rire.
En 90.
En 90, j'ai une amie qui me disait, j'ai un copain qui dessine, toi tu écris, vous devriez vous rencontrer, voilà. Bon, voilà. Et on s'est rencontrés et Jacques m'a dit, puisque tu écris, on pourrait peut-être faire une histoire pour enfants. Et on a fait une histoire pour enfants qui s'appelle Antoine et la poubelle.
Ouais.
Et puis voilà, puis après...
C'était une bonne manière de rentrer en communication ensemble, enfin, voilà, de se connaître.
C'était notre premier enfant, oui, voilà, on va dire. Ouais. Il est sorti, hein, alors il est sorti plus tard, il est sorti en 99. Voilà. Il a été édité chez l'éditeur que j'ai toujours, d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà, après on a fait deux autres enfants,
des vrais.
Voilà. D'accord. Et vous avez aussi fait du coup votre dernier ouvrage, voilà, qui s'appelle donc Tribulation ordinaire,
ouais,
bref de famille, c'est, ouais, écrit entre parenthèses,
ouais, voilà.
Est-ce qu'on peut en parler donc?
Alors, qui commence? Enfin, bon, moi, je peux peut-être commencer dans le sens où il m'arrive souvent des choses, enfin des, ouais, choses que je trouve drôle, même si au début je rigole pas quand, mmh, je sais pas moi, il y a l'histoire du foie gras quand, mmh, j'ai éclaté le plat que je veux du foie gras qui était, mmh, en train de cuire dans le four là et qui avait de la graisse partout dans la cuisine, j'ai pas rigolé au début.
Parce évidemment. Que excuse-moi Martin, en fait c'est un livre, c'est un recueil d'histoires, ouais, vécues,
oui,
illustré par Jacques en fait.
Voilà.
C'est ça,
hein. Donc voilà, moi j'écris ce genre d'histoire. Mmh. Que je,
chaque
que...
histoire porte, enfin, tient sur une page, hein. C'est, voilà, une anecdote en fait.
Voilà, voilà. Alors, elles
une
ont
brève.
Été, voilà, elles ont été retravaillées. Je les mettais sur Facebook au fil des années, et elles ont été retravaillées justement pour qu'elles tiennent bien sur une page. Et puis c'est un jour, hein, c'est pas tout de suite, c'est un jour, Jacques m'a dit, il m'a fait un dessin, je sais même pas si tu m'as dit, tu as fait un dessin, c'était l'histoire du chien qui était d'un chien qui était en train de s'étrangler, et où je suis partie comme une folle dans la rue pour
le sauver
le chien et tout, et Jacques m'en a fait un dessin, et puis on s'est dit, et puis même il y a un copain qui nous a dit qu'on devrait faire nous rassembler, que Jacques dessine à partir de mes textes, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est.
Donc la répartition des rôles, en fait, c'était à partir. Alors maintenant, en fait, c'était un peu des deux, finalement.
C'est Martine qui écrit l'histoire. Ouais. Après, j'essaie de trouver. C'est des histoires très imagées. Mmh. Quand elle raconte, tu verras, c'est. Donc moi, les images me viennent tout de suite. Mais c'est pas. Je vais pas dessiner ce qu'elle a écrit. Je dessine. Un écho. C'est un écho, c'est pas. Souvent, c'est le décalage qui fait rire, quoi.
D'accord. C'est parce le décalage entre le texte et l'image. L'image est un faire-valoir de l'histoire, enfin de la brève. Mise en valeur.
C'est un écho. Moi, je vois que ça, c'est pas.
Un contrepoint.
Voilà, un contrepoint, exactement. C'est le mot juste.
Mais moi, dans l'histoire, enfin, le dessin, moi, il me fait rire.
Voilà. Moi, les histoires me font rire, ouais, et toi, c'est le dessin.
Oui,
bah,
voilà.
On se fait rire.
C'est parfait. Vous faites rire.
Voilà, mon personnage, là, moi, je le trouve drôle.
C'est toujours le même personnage,
ouais. Sauf quand il y a les enfants ou quand,
voilà,
il y a...
C'est toi, Martine, au fil des ans, en fait.
Oui, voilà.
Voilà, je l'ai dessiné en petite fille.
Et une histoire de toi, là. Là, tu t'es bien gardé de te dessiner.
Si, je me suis dessiné. Ah oui, avec le... Oui, je me suis dessiné pour le foie gras.
Oui, c'est vrai.
Le foie gras, je fais du patin sur le foie, sur la graisse, ouais, avec toi.
D'accord. C'est des histoires que finalement on a tous pu vivre un jour ou l'autre,
oui,
à peu,
voilà,
près. Donc on,
vraiment,
va pouvoir se reconnaître en lisant le livre.
Normalement, oui, ça doit parler.
Ouais.
Parce que c'est humain, quoi. Mmh.
Alors comment a été faite la sélection? Parce qu'on a plein d'anecdotes à raconter, à imaginer. Puis quand on aime écrire, justement, j'imagine, Martine, que ça déborde d'idées. Mmh. Comment on fait une sélection? Parce que ça doit tenir quand même dans...
Oui,
il y
en a bien plus que ça, ouais, évidemment. Hein.
Moi, je pense que c'est un peu moi qui ai sélectionné, parce qu'il y en a que je ne pouvais pas illustrer, parce que je n'avais pas d'images qui me venaient, donc celles-là, je ne les ai pas faites, quoi. Et j'ai gardé celles qui me semblaient, où le dessin me semblait le plus évident, quoi.
D'accord.
Et il en fallait 30, parce qu'on avait dit qu'on ferait un petit livre. Mmh. Et voilà, donc j'en ai sélectionné, avec ton accord, évidemment, les 30 qui me semblaient... Voilà, à faire. Et
donc aujourd'hui, c'est sorti. C'est aux éditions du Grard.
Non. Grard sans E.
Grard sans E. Voilà. On peut parler un peu de la maison d'édition, non?
Oui, si tu veux. C'est un éditeur que j'ai rencontré, d'ailleurs, au moment de Antoine et la poubelle, le livre pour enfants.
Le premier livre.
Je l'ai rencontré.
Le premier enfant.
Voilà, je l'ai rencontré en 98, ou dans ces eaux-là. Parce que j'ai une nièce qui l'a rencontré, qui lui a dit ouais, « moi j'ai un oncle », etc. Bon, enfin bref, je l'ai rencontré, je lui ai proposé le projet de livre, il a dit « ah bah ouais, moi ça, ça m'intéresse. Et il venait de créer sa maison d'édition pour s'éditer lui. Oui. Parce qu'il n'arrivait pas à se faire éditer. Donc il s'est dit, bah, moi je vais faire ma maison d'édition. Et c'est parti comme ça pour s'éditer lui. Et puis petit à petit, il a commencé à éditer d'autres gens, dont moi. Oui. Moi j'étais un des premiers qu'il a édité en dehors de lui. Quoi.
Il y a un thème dans, son, dans cette maison d'édition, c'est la jeunesse.
C'est familial. C'est-à-dire qu'il a, il a un spectre qui regroupe tout, tout genre de littérature, depuis la littérature enfantine jusqu'à, je dirais, la littérature pour les ancêtres. Quoi. Enfin, je ne sais pas, non. Pour,
d'accord.
Enfin, voilà, il fait des romans, il fait beaucoup de BD, des, beaucoup de livres pour enfants. Enfin, c'est, il y a vraiment tout ce qu'on veut là-dedans.
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Et c'est, lui, il est en région parisienne, cet éditeur.
Il est à Hainainville-aux-Bois. C'est à 50 bornes de Paris, à peu près.
Ok. Ouais. Sur vos projets plutôt individuels, Martine, tu as écrit aussi des chroniques. Est-ce que tu peux nous en parler en deux mots de ton travail précédent, La Tribulation Ordinaire ?
Alors, les chroniques qui sont sorties, là, c'était plutôt en auto-édition. C'était sur le confinement. Chaque jour, j'écrivais la journée. Alors, et c'est... Enfin, moi, ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était aussi mon côté d'orthophoniste, enfin, tout le côté santé, de comment on a géré ça. Enfin, le livre, je l'ai commencé le 27 février. C'est-à-dire que c'est un jour où on allait partir au Saisy, où Jacques faisait un festival de BD. Et puis ça a été un peu la dégringolade. Enfin, nous, on est partis, on était dans un cocon protégé, même s'il y a des choses qui avaient été annulées à cause du Covid. Et quand on est redescendu et qu'on a voulu faire nos courses, il n'y avait plus rien dans les magasins. Donc j'ai commencé à écrire tout ça. Là, cette montée, cette angoisse. Le dimanche, je crois que c'était le 15 mars, il y avait des élections. Il y avait, et sur Facebook, il y avait toutes mes collègues orthophonistes qui disaient « Est-ce que toi, tu fermes ton cabinet ? Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, on me demandait, et moi, je crois que j'étais un peu en état de sidération, je disais « Ah oui, mais moi, le lundi, je ne travaille pas. » Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais je crois que c'est parce que c'était une angoisse de dire « Mais là, on va arrêter de travailler, mais comment on va gagner de l'argent ?» Parce que le libéral, c'est que quand on travaille, quoi, il n'y a pas de... Enfin bon, sûrement que les salariés devaient se poser cette question-là quand même, mais... Enfin, voilà.
Et ça a été ta source d'inspiration pour parler de ce... pour écrire ce livre, en fait.
Oui, voilà.
Tu parlais d'auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai fait appel à une... Je ne sais pas si ça s'appelle édition, c'est LibriNova. C'est-à-dire que j'ai mis un peu d'argent dedans... Et eux, ils me l'ont édité. Et puis après, c'était à moi de me débrouiller pour
c'est
le
édité
long.
À compte d'auteur.
Oui,
quoi.
Voilà.
Compte d'auteur,
d'accord.
Et ça se trouve, c'est édité sur papier ou on peut le retrouver aussi en version
sur papier,
informatique ?
Moi, je pense qu'à la Galerne, il en reste. Mais sinon, il n'y en a plus, quoi.
C'est bien vendu, du
oui,
coup.
Voilà. Oui, voilà. Oui.
Ça ne sera pas réédité ?
Il faudrait que ce soit un éditeur, maintenant, qui est réédité. Moi, je pense que... Il faut laisser encore passer du temps. Enfin, parce que je pense que ce livre, comme plein d'autres de cette époque-là, c'est une source... Enfin, ce sera intéressant pour l'histoire. Parce que j'ai vraiment... C'était au jour le jour. Je notais ce que j'entendais à la radio, pas tellement à la télé, enfin, ou sur Internet. Et puis, ce que je montrais aussi, c'est tout ce que ça pouvait renvoyer... sur notre histoire à chacun.
Oui.
À cette époque-là, pendant le confinement, j'ai lu Le Lambeau de Philippe, François, enfin non.
Un des rescapés de Charlie Hebdo.
Un des rescapés de Charlie. Et tout ça, ça m'a renvoyé des choses à mon histoire personnelle. Enfin voilà. Et puis, par rapport à mon travail, on a eu le droit de faire de la visio. On n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais eu le droit. Et puis, le contact que je pouvais avoir avec mes patients comme ça, et c'était très émouvant parfois.
D'accord, oui. Donc, en fait, ce livre-là va te servir de référence, va faire partie des références quand on voudra comprendre dans quelques années l'événement majeur qu'on a tous vécu.
Ce sera un outil pour
les historiens qui décrit la vie au jour le jour, la vie normale, ou anormale des gens toutes les personnes qui ont vécu cet événement.
Parce qu'il y a notre histoire, enfin notre vie qui était très confortable, et puis il y a celle de mes patients.
Et c'est raconté.
Oui, voilà, c'est raconté. Bon. Donc il y a eu, il y a eu ça.
Il y a eu entre autres ça dans les dernières parutions. Oui. Et toi, Jacques, tu continues et tu as écrit la bande dessinée, par exemple la bande à Ed et Léo Élu. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est quelque chose que tu continues.
Alors, il y a plusieurs volumes de parus déjà. Là, je suis en train de dessiner le Léo Élu 11. C'est l'onzième album, donc ça commence à... Alors j'ai commencé avec l'éditeur dont on parlait tout à l'heure, Georges Grard, et c'est lui qui fait le scénario de ces bandes dessinées-là. Et, c'est-à-dire qu'il raconte les histoires d'un frère et d'une sœur, il s'est inspiré de son fils et sa fille, et c'est Léo et Lucie, c'est Léopold et Lucie, et voilà. Et ils se chamaillent comme tous les frères et sœurs. Alors c'est des petits strips. Au départ, lui, il avait des centaines de dialogues entre frères et sœurs, et il avait fait un petit dessin rapide où qui représentait un frère et sa sœur devant la télé. Et puis les bulles changeaient, c'est-à-dire c'était des dialogues. Et il m'a proposé ça en me disant on pourrait pas en faire une BD. Et moi j'ai eu l'idée de faire sous forme de strip. Les strips, c'est juste une bande, hein, c'est 3-4 cases à tout casser, et ça fait une histoire.
D'accord.
Et donc, on a fait le premier album, ça a été un recueil de strips. Alors, des fois, c'était une demi-page, des fois, c'était une pleine page, mais ça, voilà, c'est des petites pastilles d'humour, quoi.
D'humour, avec les anecdotes
Alors, c'est beaucoup de jeux de mots, c'est des punchlines que s'envoient les frères-sœurs, c'est de la vanne,
Pareil, ça s'adresse à la famille.
Ça s'adresse à la famille, bah oui, cet édit là, je te dis, c'est vraiment... C'est son truc. L'autre série que je fais avec lui aussi, c'est la bande à Ed. Alors, Ed, c'est un handicapé moteur, et c'est le chef de la bande d'handicapés. C'est-à-dire, ils ont tous quelque chose. Il y en a un, il est nain. En plus, il est maghrébin, donc il cumule un peu les différences, on va dire. Sam, il est obèse et puis noir. Chang, il est malvoyant et puis asiatique. Tommy, il est... Alors lui, c'est un sorte de handicap psychique, quoi. Alors, peut-être autiste ou un genre d'autisme. Et puis, il y a la fille de la bande qui, elle, son handicap, c'est d'être une fille, quoi, dans cette société de garçons. Et puis voilà, cette bande-là vivent leur vie d'ado. Alors là, j'en suis au huitième album.
Ouais.
Le huitième album, c'est Aide aux Jeux Paralympiques Paris 2024. Voilà.
Donc, ça, c'était le dernier. Il est sorti
avant les Jeux Paralympiques. Voilà.
Ouais. Voilà. D'accord.
Voilà, et ça, c'est le dernier.
Et donc, ça parle de leur univers, leur bande dans
C'est une bande de gamins qui se démerdent. Enfin, c'est beaucoup d'humour, pas mal d'autodérision sur eux-mêmes. Mmh. Ils sont... par rapport à Léo Élu, c'est moins dans le jeu de mots, c'est plus dans la situation, quoi.
C'est une BD que tu as commencé il y a quelques années
Je l'ai commencé en 2007, le premier tome, et là j'en suis... donc c'est cette année ou les dernières, les Jeux Paralympiques, c'est cette année.
C'est sorti, donc
cette année, le huitième. Et là, Léo Élu, je disais le 11e, on a commencé en 2001, le premier.
D'accord.
Sorti.
Et comme c'est un travail en duo, comment se passe le travail entre le texte et le dessin? C'est beaucoup d'échanges au téléphone?
C'est ça. C'est-à-dire, lui, il m'envoie une centaine de gags, qu'il estime des gags.
Ouais.
Après, c'est à moi de trier là-dedans. Il m'envoie de la glaise, quoi. Puis c'est à moi d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il est... On fonctionne comme ça, ça marche très bien. Hein. Voilà, lui, il a pas de filtre, il a pas de tri dans ce qu'il m'envoie. C'est à moi de le trier. Et alors, on passe pas mal de temps au téléphone à dire, ouais, celui-là, ça fonctionne pas. Il me dit, mais oui, il est bien. Enfin, donc on essaye de.
C'est des allers-retours.
Voilà, c'est des allers-retours et on arrive à en sauver quelques-uns. Il y en a d'autres, on dit définitivement non. Voilà. Et puis ça fait à peu près 80 gags par album.
Ah oui, donc c'est quand même conséquent.
Bah oui, c'est,
hein. Ça demande combien de temps? Un an de préparation?
Plus ou moins, disons 6, 7 mois, quoi, pour lui, il écrit ça comme il respire, il fait ça à toute vitesse. Mais après, tout le travail de fabrication, oui, ça prend 6, 7 mois, quoi.
D'accord. On arrive au terme de ce petit entretien. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient être auteur ou autrice ou se lancer dans les dessins. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil finalement? C'est, il faut pas hésiter à se lancer, par exemple.
Oui, enfin, ben moi je crois, mais je crois qu'il faut écrire. Enfin.
Parce que je sais que souvent on a le sentiment de dire, ben je j'ai rien d'intéressant à dire. Alors on écrit pour soi, puis après on jette le papier à la poubelle et on recommence. Et puis alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer à l'étape suivante?
Attendez. Alors déjà, il faut qu'il y ait vraiment ce désir-là, et puis vraiment écrire et. Et puis la pensée, les mots se construisent. Enfin, ce que je suis aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir il y a 5 ans, par exemple. Moi, les chroniques, la mémoire de guerre sur le confinement, ça m'a énormément aidée pour tout ce que j'ai fait après. Et je ne vois plus les choses de la même façon. Maintenant, j'arrive beaucoup mieux à corriger. Je m'organise beaucoup mieux qu'avant. Et mais c'est de la pratique. Moi, je commence à être vieille. Hein. Et ben voilà, il faut pas hésiter. Il faut se lancer. Il faut se jeter. Et puis, évidemment, tout n'est pas à prendre. Mais au moins, enfin, il y a toujours cette histoire de la page blanche. Ouais. Et moi, j'ai été longtemps, je me disais, oh là là, faut que j'écrive là. Oh là là, ah oui, mais peut-être que je pourrais aller mettre une machine à linge à tourner. Enfin, trouver toujours un moyen pour fuir. Mais maintenant, ben, je me mets, moi, je travaille que sur l'ordinateur. Enfin, non. J'écris sur l'ordinateur. Je prends des notes et tout sur des papiers, des cahier, tout ça, mais j'écris et je jette, j'écris, et après on verra, et on reconstruit, voilà.
Et si tu, souvent on a peur de montrer son travail, à qui tu pourrais le montrer quand tu commences dans l'écriture? À sa meilleure amie ou pas du tout, à un inconnu?
Je crois que ça dépend des gens. Moi je montre évidemment à Jacques, mais puis à des copines après, mais
parce que c'est dur la critique en fait, hein, oui, de recevoir la critique.
Et puis moi souvent, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais souvent moi je préfère montrer une fois que c'est enfin pas fini, parce que c'est jamais fini, mais une fois que ça tient. Tant que ça tient pas, j'ai pas envie de lui montrer.
Oui, il faut que ça soit à peu près abouti. Donc, ne pas hésiter, avoir confiance en soi. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes idées. Oui. On essaye. Une fois qu'on a accompli une bonne partie du projet, on peut le soumettre
et puis,
à critique.
Après, on peut demander avis. En tout cas, dans les constructions, là, par exemple, il y a eu sur le prochain livre qui va sortir en janvier. Là, c'est un recueil de nouvelles tirées d'un chanteur, enfin de chansons d'un chanteur. Et j'ai fait des choix, j'ai choisi les chansons. Il y en avait une qui était... je savais qu'il fallait que je la fasse, que je prenne cette chanson, mais pour moi, elle était très dure. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, avec Jacques, avec des copines, et puis... Et puis ça s'est construit petit à petit. Comme ça.
D'accord. Jacques, pour la BD, j'imagine que c'est le dessin.
Moi, je dirais comme Martine, il faut avoir envie déjà.
Ouais. Oui, bien sûr. Oui,
il faut avoir le désir, se dire je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé. Ouais. Après, une fois qu'on est vraiment obligé, il faut dessiner.
Et on peut se retourner vers des gens professionnels pour avoir un avis objectif ou
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire. Moi, n'importe qui me demande s'il a envie des conseils, je donne sans problème, c'est pas un problème. Mais je crois surtout qu'il faut soi-même être clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on a vraiment envie de faire.
Ouais, d'accord. En fait, ça doit être évident. Quelqu'un qui a envie de faire ça, c'est évident, on n'a pas besoin de lui dire...
Un peu comme je te racontais, moi, je voulais être Walt Disney. Quoi. Ouais. Il faut avoir envie d'être Walt Disney si t'as envie de...
D'accord.
Mais je pense que tous les dessinateurs de BD que je connais, ils ont ça. Ils ont eu cette... ils peuvent pas faire autrement.
Et juste une petite part, excuse-moi, tu dessines tous les jours
Oui. Voilà. Oui, comme je respire.
Ton outil favori, c'est papier et crayon
Papier et crayon. C'est tout ce que
j'ai.
C'est tout ce qui me tombe sous la main. Là, je fais des caricatures. Alors, les caricatures, je les fais avec des feutres, principalement. Je fais de temps en temps en numérique, sur tablette. Autrement, aquarelle, oui, ça m'arrive de faire de l'aquarelle. Non, je fais plein de trucs.
Et ouais, je voulais dire, l'écriture, c'est vraiment ça aussi. Là, moi, il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais parce que je suis débordée entre l'orthophonie et l'écriture, il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais laisse tomber l'écriture, mais je ne veux pas laisser tomber l'écriture.
C'est le contraire qu'il faudrait faire.
C'est, hein. Voilà,
c'est intimement, ça serait l'inverse.
Mais c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui va se passer dans six mois. À l'âge de la retraite.
Ouais. Magnifique, la possibilité de pouvoir faire ce travail, non, cette passion à temps complet. Oui, oui.
Ce serait de la retraite d'orthophonie et puis la continuation.
D'accord. Un projet commun à venir, tu nous parlais, mais ça c'est ton projet à toi, mais... Tribulation ordinaire, volume 2, peut-être.
On a dans les cartons des choses, notamment une bande dessinée qui était très prometteuse et qui n'a pas trouvé d'éditeur. Elle m'avait fait le scénario et moi j'avais fait les dessins. On avait bien travaillé. Hein, c'était l'histoire des Vermeils. C'était une bande de vieux, comme on dit, une bande de jeunes. Là, c'était une bande de vieux qui était un peu espion et qui essayait de démanteler un réseau de trafic gérontophile. Enfin, bon. C'était un truc bien délirant et voilà, on n'a pas trouvé d'éditeur. Alors peut-être qu'un jour.
C'est en cours en fait.
C'est dans les cartons.
C'est dans les cartons, comme on dit.
Oui.
D'accord. Mm-hmm. Là, vous allez. Alors aujourd'hui, on est le 21 décembre, mais cette émission, on sera. Mm-hmm. Enfin, on pourra l'écouter plus tard, mais il y a une séance de dédicace que vous allez effectuer. Qu'est-ce que ça représente en fait, la dédicace? C'est un bon moyen de. Qu'est-ce que ça fait, en fait,
de rencontrer les gens? Oui, nous, on fait quelques festivals aussi.
Salon du livre.
Oui, voilà, Salon du livre. Je ne sais pas, là, on ira à Bolbec au mois de mars, je crois.
Ouais.
Et c'est toujours du bonheur de rencontrer les gens. On discute, voilà. Enfin, moi, j'aime bien le partage, moi, quand même.
C'est la seule occasion qu'on a de rencontrer les gens qui peuvent nous lire.
Un retour sur son travail, échanger.
Ou même le faire découvrir la plupart du temps. Quoique moi, depuis le temps qu'on fait Léo Élu, des fois je tombe sur des enfants que j'avais vus il y a 10 ans et qui reviennent avec leurs enfants. Enfin, ça, c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent. Enfin, pas forcément à moi, parce que moi je ne fais pas énormément de salons, mais mon éditeur qui fait énormément de salons, il dit que ça lui arrive tout le temps.
Donc c'est un vrai partage, c'est un vrai moment de partage.
Oui. Ah oui, oui, ouais. Oui.
Donc c'est vraiment un beau moment, quoi.
Ah oui, ça c'est vraiment du bonheur, ça. Ouais, ouais. Ben moi, oui.
Oui, toi, oui. Moi, je suis un petit peu plus... J'aime pas sortir de chez moi, en fait.
Ouais. Un peu un ours, quoi.
Je suis un ours, voilà, c'est ça.
Donc alors,
c'est...
en parlant d'ours, une dernière question qu'on a l'habitude de poser maintenant... traditionnellement, j'allais dire, même si ça fait qu'un an qu'on existe, Radio Girafe, mais si vous deviez être une girafe, quelle girafe seriez-vous?
Une girafe avec un petit cou.
Une girafe à petit cou.
N'importe quoi.
Quoi?
Non, bah. Non, on accepte toutes sortes de girafes.
C'est juste comme on se moque toujours l'un de l'autre.
Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu vas sortir?
Et toi, Martine?
Moi, justement, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance
d'aller... Des petites pattes?
Non. Je sais pas.
Des courtes pattes?
Je sais pas, je trouve ça tellement majestueux, une girafe... Et je sais pas.
Une girafe au naturel, simplement.
Au Kenya, par exemple.
Une girafe au Kenya.
Ouais, parce que j'en ai vu une.
Voilà. Ben, écoutez, merci vraiment beaucoup pour ce moment plein de bonne humeur. On souhaite plein de succès pour Tribulation Ordinaire et pour vos prochains ouvrages également, prochains projets qui sont encore dans les cartons. On vous dit à très bientôt. C'était un Havre de Culture aujourd'hui avec Martine et Jacques. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet radiogirafenormandie.fr, mais aussi sur notre toute nouvelle application qui peut se télécharger sur votre mobile iOS ou Android, Radio Girafe Normandie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.